Avez-vous aimé la petite pause ce matin? Complètement involontaire. Je vous rappelle que quand je fais ma grande technique, c'est que je mets mon téléphone à côté du haut-parleur. C'est génial. Comment ça va? Alors, écoutez ça. Hier, j'ai découvert le parc Bellerive. Ma sœur travaille dans le coin de Mercier, Hochelaga, dans une école comme infirmière. Et puis, elle reste à Repentigny. Et là, elle me propose qu'on se voit comme ça, dans le parc, tranquille, elle amène deux chaises, etc. Pourquoi pas, tu sais? Puis, c'est à 45 minutes, littéralement, en vélo, d'ici. Tu pars du centre-ville, puis tu suis l'exécrable piste cyclable de la rue Notre-Dame. Mon Dieu! Je veux dire, tu sais, tu longes le fleuve, là, c'est industriel à mort. Tout à coup, il y a une piste cyclable. Tout à coup, c'est un trottoir. C'est zéro, là. T'sais. Quand je vous dis que je ne vais pas dans l'Est, là, vous en avez une autre magnifique illustration. Mais quand tu arrives au parc en question, qui est énorme, c'est pas, moi, je pensais une petite patente, c'est gros au bout. Là, c'est hyper aménagé. Toute la toilette publique, les bancs, le fleuve juste là. C'est comme... c'est une belle place à aller. Fait que, franchement, c'était le fun. Et puis, on a jasé de toutes sortes de choses. On a fait le point. Elle vient d'avoir ses drôles. Elle me parlait de son chat. André a toujours eu des chats. Puis, son dernier chat est décédé il y a comme un mois. Mi-chat. Et puis là, elle vient d'en acheter un autre. Elle va à la SPCA pour ses animaux. Puis elle dit, écoute, j'ai jamais vu quelqu'un parler de son animal de même. Elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit, c'est le chat parfait, il est fantastique. Puis là, elle revenait tout le temps sur des critères. Je trouvais ça intéressant. Elle disait, il est confiant. Elle dit, il est confiant, puis il sait ce qu'il veut. Quand là, il y a quelque chose, puis elle dit, il est colleux. Contrairement à l'idée donc, qu'on a qu'un chat, c'est toujours indépendant, puis ça s'en sac. Elle dit, il vient se frotter à la tête tout le temps, puis telle affaire. Puis il est beau, il est impétable. Elle dit, même quand je l'ai vu, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, en adoption? C'est pas un chat de ruelle, clairement. T'sais, c'est un chat domestiqué, puis... Mais elle revenait avec quelque chose que je trouvais intéressant. Elle disait tout le temps, il est confiant. Puis j'ai parlé de tout ça avec mon chum Purple Matt au lunch lundi. On était lunché ensemble avant-hier. Puis il me parlait de clients qui savent ce qu'ils veulent, qui ne veulent pas, etc. Puis moi, j'ai conté une anecdote. Parce qu'il arrive des événements dans la vie où tout à coup, tu fais comme, « Ah, ce jour-là, j'ai appris ça. » Ça m'a comme sauté dans la face. Je vais vous en compter deux. Quand j'étais quand j'étais gérant d'artiste, j'étais aussi coproducteur avec Roson pour Cavana puis Anctil. Donc, c'est avec Production Roson, qui était le pendant privé de Juste pour rire, si tu veux, qui était géré par François Roson. Le festival s'appelait Gilbert. Puis, le premier show que j'avais fait, puis que j'avais monté, c'était le show d'Anthony, pour lequel j'agissais pas avec un titre de metteur en scène, mais je m'impliquais partout. Puis, c'était Juste pour rire qui était le vrai producteur au niveau de l'administration, le financement, etc. Mais le contrat, c'était un contrat de coproduction. Entre Anthony, moi, puis Roson. Et première rencontre qu'on a eue avec le gars du décor, c'était France Lausière qui était à ce moment-là la productrice déléguée. France Lausière qui est aujourd'hui la VP programmation à TVA. Quand on a eu la première rencontre avec le gars du décor, dont j'oublie complètement le nom, il s'assoit puis il dit « C'est quoi votre budget? » Moi, ça devait tout avoir été dit d'avance, je suppose. Mais bref, on commence le meeting. On avait un budget de 10 000 $, je me souviens. Ça, il y a une vingtaine d'années quand même. C'est qu'on pouvait faire un décor correct, c'est digne de ce nom. Puis là, il dit, qu'est-ce que vous voulez, tu sais? Puis là, j'ai fait, ben, je veux pas te dire ce que je veux rien de particulier. Je te dis qu'on aimerait ça en avoir pour 10 000 $, là, comme on achète des patates, une drôle de façon de fonctionner, autre discours, mais bref. Puis là, la discussion tourne en rond parce que lui, il voulait savoir ce qu'on voulait. Puis moi, dans ma tête, c'était brimer la créativité, de commencer à dire, moi, je vois ci, moi, je vois ça, c'est comme, je vois rien. Puis si je vois de quoi, je vais pas te le dire. C'est toi le gars de décor. Qu'est-ce que tu trouves qui se fitterait? Je peux te parler du show, je peux te parler de c'est quoi. Puis je voyais que lui, ce qu'il voulait, c'était circonscrire ce que le client veut pour pas travailler dans le vide, puis blablabla, tu sais. Puis... Et ce jour-là, j'ai compris que les gens, ils veulent du monde qui savent ce qu'ils veulent. C'est les entrepreneurs, puis c'est les artistes qui trouvent que c'est une méthode castrante. Mais tous les autres veulent savoir c'est quoi que tu veux. Parce que c'est de même que ça marche. Puis que quand tu laisses la pleine créativité puis la page blanche à quelqu'un, ça embarque avec un stress. Je sais pas si je vous avais parlé, là, quand j'étais au cégep, on avait un cours qui s'appelait « Communication et créativité ». Moi, j'ai fait 2 ans au cégep Limoilou en communication. Bon, moi, j'appelle ça, j'ai étudié en cafétéria, là, parce que c'était vraiment complètement zéro. Mais bref, puis il y avait un cours « Communication et créativité ». Puis le premier cours, la prof a dit « Aujourd'hui, faites ce que vous voulez, mais revenez dans 3 heures, me dites ce que vous avez fait. » Là, tout le monde, il y en a un qui avait fait un petit journal, l'autre a fait des entrevues. T'sais, tout le monde, on était dans un trip de gens de com. On étudiait là-dedans, puis on tripait. Puis elle a fait « OK, c'est beau, c'est tout. Pour le premier cours, c'est ça. Deuxième cours, faites encore ce que vous voulez. » Là, tout le monde a juste glandé. L'autre est allé au dépanneur. Il fallait revenir. Puis elle nous dit, au deuxième cours, elle dit « Voyez-vous comment c'est pas long que quand on donne complètement la poque puis qu'on dit « Tiens, ça, c'est les clés du char, va où tu veux », ça part en couille. C'est rare les gens qui savent quoi faire avec une page blanche. Je trouvais ça fascinant. Puis voilà. Donc, fait que c'est drôle parce que ma sœur parle de son chat comme étant, il est confiant, puis pour elle, c'est un plus. C'est pété, hein? Tu sais, ça pourrait être genre, mon chat, il est un petit peu confiant, là, la coche de trop, là, tu sais, c'est comme monsieur, mais non, c'est pas le même sa sœur. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Puis c'est ça. Fait que, donc, anecdote par rapport à, on sait ce qu'on veut puis qu'on veut pas. Puis je vous disais, on apprend sur les gens avec ces types de propos-là qu'on échange au fil du temps. Puis une autre fois, j'étais dans une station de radio, puis les codes d'écoute de radio viennent de sortir. Moi, je travaillais dans une radio compétitrice, mais j'étais dans cette station-là avant, puis je connais le monde, puis entre autres, je travaille encore à ce jour avec le gars que je vais vous parler, qui est un technicien, tu sais, qui est un gars qui fait de la prod puis de l'imagerie sonore, super bon. Puis là, j'ai dit « Hey, X, qu'est-ce que tu penses des sondages? » Puis là, il me relate ce qu'il y a dans le journal. Puis je fais, ben ouais, OK, mais je veux dire, ça fait 15 ans que tu travailles ici, là. Toi, qu'est-ce que tu penses, tu sais, puis telle affaire. Puis j'ai réalisé, ça m'a fait halluciner, que c'est pas parce que tu travailles dans une industrie que ça t'intéresse les rouages de l'industrie. Ça se peut très bien que pour toi, c'est une job, tu rentres à la job, tu ressors de la job, t'as fait ta job. Moi, je marche pas de même, je peux pas concevoir... Mais ce jour-là, c'est cette anecdote-là qui m'a fait réaliser ça. Tout comme c'est l'anecdote du décor où j'ai fait « Ah ben tu vois, les gens, ils veulent que tu leur dises « Moi, c'est ça que je veux. » Là, ils sont contents. C'est capoté, hein? C'est mon chum Deep Love qui disait, puis c'est tellement vrai, en tout cas dans mon cas, je sais pas vous autres. Mais il dit « Il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Il y a des en dehors d'aller à l'école, je parle, là, sur le terrain, là. Comment on apprend? On apprend par l'expérience... puis par des phrases qui changent tout. Tu sais, moi, Jean-Marie Poupard, quand j'ai lu la phrase « Ce qui arrive encore à étonner les gens, c'est la vérité », j'ai fait « C'est extraordinaire ». Moi, je formulais déjà une phrase qui ressemble à ça, qui est « Il n'y a pas de marché pour la vérité ». C'est-à-dire que si toi, dans la vie, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, tout ce que tu cherches, tout ce que tu aimes, c'est la vérité, tu finis tout seul peinturé dans le coin. Il n'y a pas de place pour ça. Puis à la rigueur, c'est aussi un côté qui est correct. C'est pas pour rien qu'on fait de la diplomatie, puis qu'on n'est pas tout le temps en train de dire « Hey, salut, ça fait longtemps qu'on s'est vu, by the way, tes cheveux, c'est là ta mort. » Puis moi, puis la job, on le fait pas parce que ça donne rien, puis ça marche pas de même, puis il faut avoir de la sensibilité, puis communiquer. Tu sais, une idée, pour moi, c'est la raison qu'il faut qu'il forge ça, mais sa communication, c'est l'émotion qui doit dicter ça, tu sais. Ça fait que je suis pas contre, là, c'est le fait de faire attention, vous comprenez-vous ce que je veux dire? Mais en un mot, c'est qu'il n'y a pas de marché pour la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, ça fait rien carburer. D'autant plus aujourd'hui, là, tu sais, où la vérité, si tu t'en vas sur Internet. Ça fait que je trouvais ça très, très intéressant. Bref, c'est quasiment le sujet, là, mais... Donc, on jase avec André, blablabla et tout. Puis là, je reviens, puis je me dis, tiens, j'arrête au Midway. Parce que j'y vais moins souvent depuis déjà plusieurs semaines. Quand ça a réouvert, j'étais là quasiment tous les jours. Là. Puis là, ben, j'ai repris comme mon air d'aller. Là, tu sais, j'y vais, mettons, 1 fois, 2 fois dans la semaine. C'est à peu près ça. Puis ça, puis le McLean sur Peel, c'est à peu près les... Tu sais, c'est 1 fois une place, 1 fois l'autre. Mettons, je vais dans un bar 2 fois par semaine. Ça fait que là, puis je savais que mon chum Cédric était là, Cédric Asselin. Ça fait que j'arrive, puis je vais au bar, je commande un Negroni. Et... Il y a une fille qui est à la caisse avec son masque, grande fille rousse, qui essaie de payer, puis sa carte marche pas, tu sais. Puis d'une fois, puis deux fois, puis tu sais, on est mal à l'aise dans ce temps-là. C'est que moi, en joke, je fais, hey, si tu veux, je vais le payer ton billet. Puis dans le fond, sais-tu quoi? Je vais le payer pour vrai. Ça me dérangeait pas, là. Tu sais, je veux dire, manifestement, elle sortait pas d'une brosse, là. Puis j'ai dit, hey, si tu veux, je vais te le payer ton bill. Mais j'ai dit ça en disant, hey, regarde, je suis le gars, moi, à côté de la scène, là, à côté de la caisse, comme dans les films de Steven Seagal, tu sais. Le gars avec un gun, là, qui est comme l'espèce de bouncer du faux dépanneur, qui tu payes sur un bouton, puis en arrière, il dit de la drogue. Puis là, elle rit, puis je trouve, puis là, tout le monde, tu sais. Puis j'essaie de faire une blague, littéralement, pour tout changer ça, puis enlever, sachant que quand notre carte, il y a un problème, on file tout le temps un peu cheap, là, tu sais. On se fait. Ça a toujours l'air, genre, un gars de colon qui passe ses affaires. Puis c'est poche. C'est une fois sur 100, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, moi, s'il y a un problème avec la carte, je fais tout le temps, ah, c'est gossant. Tu sais, on dirait que ça nous met mal à l'aise. Bref. Et là, la fille, elle s'avance, tu sais, comme vers moi, bien proche. Puis elle dit, Marc Boilard. Ah, ben, j'ai dit, oui, bonjour. Elle dit, je m'appelle Lily Boisvert. Puis j'ai fait, Lily Boisvert. Là, je la reconnais comme direct. Puis Lily Boisvert, vous savez peut-être pas c'est qui. J'y donne autour de 30, là. Elle a quelque part comme 30, là. Puis c'est une... Elle fait équipe avec Judith Lucier, qui est très, très, tu sais, social justice warrior, puis avec qui j'ai travaillé au 98.5 les dimanches. Puis ces deux-là, ils ont des capsules. Il y avait des capsules, je sais plus, sur le site de Télé-Québec qui s'appelait Les Brutes, puis qui sont des super féministes, mais qui font des jokes. Puis moi, je ne souscris pas à 100% à tout ce discours-là, bien entendu. Il y a matière à débat, etc. Mais c'est une cause qui est tout à fait légitime, là, le féminisme en soi. Puis ce que j'ai toujours trouvé, puis je suis content d'y dire hier, c'est que c'est les deux seuls qui ont amené de l'humour dans cette militance, là. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là. Mais c'est les deux seuls qui font des sketchs, puis qui font... Alors, évidemment, ils se sont fait ramasser là, par tout ce qui est de sombre et douteux sur Internet, parce que là, oh mon Dieu, des féministes à la fin. Puis elle sait qu'elle, pendant un an, elle s'est retirée des médias sociaux complètement. Puis Judith, un jour, elle avait dit « Moi, je débarque », puis telle affaire. Puis c'est comme extrêmement zéro. Là, Mais je les comprends, là. C'est comme, à un moment donné, tu fais comme... C'est l'enfer, là. Mais je suis pas à leur place. Mais je sais qu'ils ont raison de dire « Ah, c'est tellement gazant. » On émet des opinions, on a une façon de voir le monde... Puis on comprend que des gens sont pas d'accord, là, puis jusque-là, il y en a pas de problème, mais l'espèce de déferlante d'insultes, là, qui... C'est zéro, là, c'est vraiment à chier. Fait que bref, j'étais content d'y dire ça. Puis elle se souvenait que j'avais tweeté, c'est drôle, elle se souvenait qu'elle était passée à Tout le monde en parle, puis que j'avais écrit en la taguant, « Excellente entrevue, ce fille-là est articulée, c'est intéressant de voir ce qu'elle raconte, puis telle affaire. » Ce qui est ce que je pense sincèrement, tu sais. Puis là, elle se souvenait de ça, puis elle m'a dit, hey, moi, je t'écoutais quand j'étais à testostérone, etc. Puis, alors, on a convenu de se revoir pour parler de tout et de rien, parce que moi, je veux savoir c'est quoi qui se passe, c'est quoi comment le féminisme moderne, dont des filles comme Judith puis Lily, quel lien ils font avec les mœurs, la crouse, la drague, la séduction, parce que. Le féminisme élude complètement cette zone-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, jamais il embarque là-dedans. Jamais. C'est une zone qui n'existe pas. Pour les féministes, il y a un gars, une fille célibataire qui ont des interactions au travail, qui dealent des conditions de travail, qui se demandent s'il y a de l'égalité salariale. Puis après ça, il y a un couple marié, il y a la vie avec les enfants. Mais entre les deux, jamais. Puis moi, j'ai une théorie pour ça. Mais cette zone-là, là, de genre, hey, j'ai rencontré un gars 5 à 7 avant. Qu'est-ce qui se passe quand t'es une militante féministe? C'est quoi ta vie sur le terrain par rapport aux gars? Est-ce que les gars font comme, hey, regarde, check-moi à grenade, moi. Je m'approche pas de ça, ça va me péter en pleine face. Est-ce que la fille elle-même trouve que son rapport aux hommes... Ah, je veux tout savoir ça. Ça m'intéresse à mort. Ça fait qu'écoute, j'espère la revoir, là, comme je vous dis, puis... pouvoir jaser de tout ça, mais ça risque d'être super intéressant. Puis j'ai vraiment des questions par rapport à ça depuis longtemps. Et ainsi que plein d'autres affaires, là. Mais dans cette zone-là... Puis ma théorie, justement, pourquoi le féministe aborde jamais la séduction, c'est que tout ce qui est militant ne peut pas être faible en aucune circonstance. Tu ne peux pas être Black Lives Matter et dire « Ouais, mais des fois, là, les Noirs, nous autres, là, on ne l'a pas pantoute. T'sais, des fois, là, on est une gang entre nous autres, puis je vais te dire, ça lève pas. » Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Personne qui est militant peut être dans la nuance. C'est que tu cries d'un bord, puis tu tapes sur le clou. Donc, les féministes, c'est la même chose. C'est une idéologie, c'est une mouvance où est-ce que si tu commences à dire « Ouais, mais à quelque part, nous autres, les filles, il y a un bout, c'est de notre faute, c'est de même, on l'a pas là-dessus, ou peu importe. » Hey, là, c'est comme anti-féministe qu'il faut. Or, par définition, la séduction, il y en a plusieurs définitions, mais une de celles que j'aime, c'est jouer sur les points faibles de l'autre. Mais pas jouer, manipuler. Mais ça peut être totalement inconscient. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est charmé par quelqu'un? C'est qu'on devient très vulnérable. L'expression « j'avais les jambes molles », c'est parce que la personne a te fait un effet que tu ne contrôles pas. Ça, c'est l'autre affaire. L'attirance, c'est pas un choix. On dirait que personne ne comprend ça. L'attirance, c'est pas un choix zéro, là. Tu te lèves pas un matin en disant « Moi, là, toute ma vie, j'ai trippé ces grandes blondes. C'est terminé. Maintenant, une petite brune, là, c'est génial. Les rousses, moi, ça m'intéresse pas partout. Mais là, sais-tu quoi? Non, à partir d'aujourd'hui, les rousses, je trouve ça. Ben non, ça marche pas de même. Preuve en est l'homosexualité. Qui se lève en disant hey, « Moi, je serais gay, mais ça me serait hot. » Voyons donc. C'est comme t'as des attirances qui sont totalement hors de ta conscience et de ton contrôle. Alors évidemment, après ça, tu comme disait le père d'Albert Camus, un homme, ça s'empêche. C'est pas parce que je suis attiré par les filles que je deviens un violeur. C'est pas genre « je suis attiré, donc je fais ce que je veux », comprenez-vous? Mais l'attirance comme telle, ben, je suis désolé, c'est pas un choix. T'es attiré, puis c'est tout. Puis t'as le droit. C'est ça l'autre affaire, à part si t'es pédophile. Mais t'as le droit. T'as le droit de dire « cette fille-là, elle m'attire au bout. » Puis peut-être pas plus non plus. T'as aussi le droit de dire « oh, je coucherai avec, mais pas plus. » T'as le droit. Alors ça les écœure. Si les féministes n'aiment pas ces propos-là, ces zones-là, parce que ça les oblige à tout à coup avouer que ben, je suis une fille aussi qui des fois trouve que tel gars, hey, il me fait de l'effet, telle affaire. Bien entendu, elles le vivent exactement comme tout le monde, mais jamais ça apparaît dans le discours. Jamais, 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 jamais. Je vois pas ça passer. Alors, encore là, ben, je lis pas le Châtelaine tous les jours. Mais dans le discours féministe, c'est une zone qui est comme éludée. Ça existe pas. On passe de célibataire à « Oh! Ils sont mariés. Gueulons ça, toi. » C'est réveillé, quatre enfants couraient dans le salon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ah non, ça, on n'en parle pas. Bon, tout ça, moi, ça m'intéresse énormément de jaser de ça. Outre ça, ce matin, je veux juste m'exprimer et demander conseil sur ma méthode de travail. Je vous explique. D'abord, nouvelle extraordinairement hot. Le tiers, je suis resté tellement bête, après vous avoir parlé hier, après avoir fait mon angle mort de hier matin, mardi, j'ai fait « Hey, je vais aller voir mes ventes à Québec. » Parce que j'ai tellement de projets en cours. Le tiers de ma salle est vendu. Alors, c'est une salle de 50. La jauge est à 50 à cause des règlements. Normalement, c'est une salle de 100. Là, c'est 50 max. C'est le 18 septembre, le tiers est vendu. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Puis là, Marc-André de Jésus, il m'a toujours pas réécrit. C'est que je peux pas faire la mise en vente. Il y a quelqu'un hier, un de mes Patreons, qui me dit hey, « quand est-ce qu'on peut acheter Montréal? » Je suis désolé, les billets sont même pas en vente. Ça fait qu'en tout cas, je voulais juste vous dropper que c'est une excellente nouvelle. Puis si vous êtes dans la région de Québec, 18 septembre, ben c'est peut-être le temps de... Moi, je prévois que je vais être sold out avant même le soir même. Il y a le tiers est vendu, c'est fantastique. Vous ne savez pas à quel point c'est excitant, toute cette affaire-là. Puis là, hier après-midi, parce que j'ai eu un meeting, je me suis levé à 5 heures hier. J'ai enregistré mon podcast, qui était « Courageux versus Mouton ». Après ça, j'avais un setup à faire avec le gars de la station de radio pour mon contrat qui commence lundi, que je peux encore pas vous dire, mais dans pas long, c'est lundi, on se comprend. Fait que là, on faisait, parce que je fais ça de chez moi, donc on faisait, tu sais, on paramétrait le timeline, puis tout ça, bon, blablabla. Bla, bla. Après ça, meeting, parce que j'anime un truc corpo là, dans le Vieux-Port. Donc, meeting à 10 heures, où ce que je prenais des renseignements sur les 4 personnes que je vais interviewer, style talk show. Et après ça, lunch avec ma comptable à 11h30. Et là, le reste de l'après-midi, ça a été de faire le reste. Ça a été de faire checker tous les autres projets, faire la promo de ci, booker rendez-vous, discussion avec un expert que je fais vendredi matin. Tu sais, je veux dire, moi, les semaines, c'est pas long que jeudi arrive. Là, c'est ma semaine de pub saillant. C'est qu'aujourd'hui, il faut que les textes partent, il faut que les... J'en ai, là, vraiment, là, m'a dit, ça glande pas, là, tu sais. Et là, en plein après-midi, j'ai réalisé à quel point j'étais éparpillé. Puis là, c'est là que je veux savoir comment vous procédez. Je me regardais aller moi-même, là. C'est comme si, tu sais, dans les films où tu sors de ton corps, là, puis Insidious, là, le petit gars, la nuit, il vole, là. Puis j'ai fait ça, aucun sens. Je fais une affaire, je clique sur l'autre affaire, là, je m'en vais voir ça, je retourne voir ça. Y a-tu quelqu'un qui m'a écrit? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai aidez-moi quelqu'un, parce que là, je suis dans une phase où est-ce que je fais tout seul. OK, je fais tout seul. Puis, c'est une discussion que j'avais eue avec Purple Matt, qui, lui, est un expert en transformation numérique. C'est qu'il y en a vu d'autres à grosse échelle que le projet de Marc Boilard, là, on se comprend. Puis, je disais, est-ce que je devrais rapidement engager du monde ou avoir des ressources ou je dois continuer à bout de bras? Puis, il dit, tant qu'à bout de bras, tu y arrives, invente-toi pas des besoins qui sont pas encore là. Puis, j'ai fait, c'est très brillant. Ça fait que je suis encore à bout de bras. C'est moi qui fais la promo, qui fait ci, qui fait ça, qui fait les... Je fais tout. T'sais, je produis, je diffuse, je fais tout. Il y a juste mon site, mon marcboilard.com, qui est virtuellement prêt, que là, j'ai eu de l'aide graphiste et Jasmine qui a monté les pages sur WordPress, etc. Puisque là, à un moment donné, bon. Puis tantôt, d'ailleurs, à 13h, j'ai un meeting avec Jason Babin, qui est le gars qui fait toute la promo puis toute l'espèce d'assemblage pour le web de sous-écoute. C'est Alexandre, là, Bobby Roode, Alex Desrosiers, mon chum à Québec, qui m'a dit « Demande à Jason », puis je le connais, on s'était déjà parlé. Ça fait que là, j'ai un meeting avec lui, j'ai envoyé toutes mes plateformes. J'ai dit « Regarde, ça, c'est mon YouTube, c'est mon Patreon. C'est quoi que j'améliore? » Puis peut-être que je vais faire « Hey, t'embarques-tu avec moi? On se négocie une rémunération, puis là, tu pourrais t'occuper de ce volet-là ou de... » Tu sais, on va voir, là, éventuellement. Mais moi, je le paye pour une consultation tantôt qui va durer, d'après moi, 30-60 minutes pour, tu sais, comme optimiser mes affaires. Mais là, ça ne règle pas mon problème. Que je trouve que je suis extrêmement éparpillé parce que je fais tout seul, j'ai beaucoup d'affaires en cours, les podcasts, les shows live, tout, là, tu sais, et plus, là. Puis il y a une vie, là, je suis... Bon, bref, c'est que ça rentre, là. C'est pas des affaires qui prennent 40 heures chaque. C'est des affaires qui prennent très peu de temps de chat. Mais hier après-midi, j'ai fait... Là, il faut que j'en parle parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Ça fait que... Une affaire que j'ai faite, souvenez-vous, c'est que j'ai enlevé Facebook puis Twitter de mon téléphone. C'est-à-dire que je les ai mis dans une espèce de sub-dossier. Puis honnêtement, là, j'y vais quasiment plus. Là. Par jour, là, j'ai coupé là, drastiquement parce que ça sert fuck all. Puis ça a aidé au bout. Donc l'utilisation de mon téléphone maintenant, c'est beaucoup plus parcimonieux, c'est plus concentré, c'est plus efficace. Mais pour ce qui est du travail en général, c'est le bordel. Donc, est-ce que j'arrive à bien livrer puis à livrer pareil? Oui, mais c'est pas optimal. T'sais, exemple, tous les vidéos que je fais, c'est je paye sur Record, puis après ça, je mets ça en ligne. Il n'y a même pas d'intro, il n'y a pas de montage, je ne suis même pas rendu à... Regarde, je te donne un exemple. Tantôt, j'ai écrit une petite anecdote sur mon LinkedIn. La fameuse anecdote, je l'ai déjà contée, vous autres, je pense, qui justifie le prix de l'expertise. Je fais une petite parenthèse, je la compte. C'est un gars, son plancher, je l'ai fait super vite, le gars, son plancher, il craque, puis là, il demande à son beau-frère, puis au voisin, puis là, ça... Personne n'est capable, c'est toutes des affaires botchées. Puis un jour, quelqu'un, il parle, là, il y a un spécialiste de plancher hallucinant, mais il coûte cher, je pense, mais lui, il connaît ça. Il l'appelle, le gars, il rentre, il reste 5 minutes, il plante un clou à côté du divan, puis tout arrête. Ça craque plus rien, le gars, il capote. Il dit, c'est quoi ton bill? Je suis tellement content, merci, merci. Il donne son bill, 250$. Là, le gars, dans sa tête, il fait, attends une minute, là. Il est resté 5 minutes, le double, ça va faire. Ça fait que, comme pour le peinturer dans le coin, il dit, peux-tu me ventiler ta facture? T'es juste me dire, tu sais, ça plus ça plus ça égale 250$. Je fais, pas de problème, monsieur. Ça fait qu'il écrit, il reprend sa facture, il gribouille dessus, il redonne. C'était écrit, planter le clou, 5$. Savoir où planter le clou, 245$. C'est fantastique. Ça fait que, bref, j'étais en train d'écrire cette petite histoire-là sur LinkedIn parce qu'un gars parlait qu'il avait soumissionné, là, ils ont pris le moins cher, puis finalement, ils ont fait, hey, ça a été tout croche, tu sais. Ben là, je suis pas foutu de savoir où est le U accent grave sur mon Mac. J'ai fait une recherche dans Google comment on fucking fait le U accent grave. Bon. Ça fait que je suis encore au niveau que le U accent grave, je le maîtrise pas. Penses-tu que je suis au niveau de faire du montage dans iMovie avec tout le reste de ce que je parle, que je fais? Comprends-tu? C'est comme... Puis je devrais avoir ce temps-là, j'ai ce temps-là, mais je sais que là, je touche à une espèce de zone où les shows à Québec, les shows à Montréal, trois podcasts, du M, on repart jeudi prochain, on change de studio, on s'en va chez Pantelis. Donc avec Eric, c'est jeudi prochain la prise 2. Parce que à chaque semaine, je le file pas. C'est... Je pense que ça va être excellent aux deux semaines jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Soit que la TV va embarquer, je sais pas. Je sais que les commentaires sont excellents. Vraiment, j'étais bien au-dessus de... Je m'attendais à du 50-50. Écoute, c'est comme... Tabarouette. Fait qu'on est ravis. On va refaire un épisode pareil. Ça va durer à peu près le même temps, tout. Puis on remet ça, ses affaires, Eric, puis tout. Puis ouais, let's go. Mais comprenez-vous? C'est comme, ben ça, à un moment donné, je suis pas juste genre, hey, devine quoi? Pouf! Tu sais, comme l'image du couple, là, qui il se réveille, puis les enfants courent dans le salon. T'écris, t'enquêtes, si, ça, lui, t'en parle, telle affaire, là... C'est tout moi qui coordonne ça. Je me plains zéro, là. Je suis en train de vous dire, est-ce que vous avez un truc qui fait que tout à coup, t'optimises tes gestes quand t'en fais beaucoup dans la journée? T'sais, moi, je suis pas un spécialiste. Je suis pas quelqu'un, mettons quelqu'un qui fait de la correction. 8 heures par jour, le texte arrive, puis là, c'est de la correction. La virgule, l'autre mot, la patente, le si, puis de la... Je sais, j'ai travaillé avec ça, moi. Les deux derniers livres que j'ai fait avec les éditions de l'Homme, on avait un correcteur et un éditeur, en tout cas... C'est des jobs différents, réviseurs. Écoute, tu sais, je veux dire, ils font ça à la journée longue. Là. C'est comme des imprimantes 3D. Là. Mais moi, c'est pas ça. C'est un bout, c'est créatif. Il y a un bout, c'est d'avoir du propos. Donc, quand je vous dis je lis le matin, ben oui, j'aime ça lire le matin. Mais il faut toujours bien que je le fasse. Sinon, je suis pas tant sérieux dans mon projet. Bon, puis là, tu rajoutes ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis médias sociaux, bing, bang. Ça fait que c'est un peu rushant. Ça fait que oui, je vous demande si vous avez des trucs à mettre en commentaire, dépendamment où vous écoutez, ou carrément de m'écrire, pour dire, regarde-moi, j'ai... Puis, tu sais, j'ai mes listes, là. J'en ai une liste, là, le petit app rappel, là, de... Puis, OK, mais je veux dire, là, j'en commence une, je fais... Ça fait que ça sonne très déficit d'attention. Peut-être que j'ai ça aussi, mais c'est pas... ça cause pas de trouble. Je veux juste faire en sorte que... Je veux juste un ou des trucs... pour améliorer ma livraison, comprends-tu? Pour faire en sorte que mon to-do list, je l'attaque mieux. Voilà. Comment faire pour mieux attaquer ma to-do list? Ça va être même ça le titre. Et sur ce, j'attends vos commentaires.